Bonjour chers auditrices et auditeurs. Pour cette émission du mois de septembre, nous avons le plaisir d'accueillir au sein du comité Maméga le docteur Slima Digi, médecin coordinateur, Alix Fouleux, chargé de projet, et Tatala, président de l'association Environnement Santé. Vous pouvez écouter les émissions du comité sur le 3.4 FM et sur le canal réseau numérique en DAB+, sans oublier le site de Radio Galère, www.radiogalère.org. Cette émission des Échos est conçue, produite et réalisée par le comité Maméga avec l'aide de Radio Galère, notamment notre fidèle technicien toujours présent au poste, Sidi Diallo, qui est à la technique. L'animation aujourd'hui sera assurée par Saïd Boukenouche et moi-même, Leïla Ega. Notre passeuse de mémoire, Karima Berich, n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais sera présent à nos côtés, s'il le veut bien, Jean-Marc Ega, qui fut longtemps l'animateur principal des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui sont les problèmes de santé publique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et nous aborderons cette thématique avec donc nos invités ici présents. Vous pouvez nous appeler en composant le 07 49 53 26 38. Et on se laisse déjà avec une première pause musicale. Et on est dans le thème « Je suis malade, Serge Lama ».
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le
commencer par les femmes, n'est-ce pas, messieurs ? Alix, donc, qui est chargée de mission au sein de SET. Il y a également présent avec nous le docteur Slima Didji, qui nous avait déjà honoré de sa présence, il me semble, à deux reprises, mais notamment au cours d'une longue émission l'année dernière qui était consacrée au Covid dans les QPV de la ville de Marseille. Et Yazid, notre cher Yazid, à chaque fois je dis qu'on ne présente plus mais que je force à se représenter. Donc l'association SET n'est pas inconnue sur les ondes de Radio Galère, et plus particulièrement sur les ondes des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Mais pour les auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ces émissions et entendre parler de l'association SET, pourtant on sait que vous êtes très actifs sur les territoires, mais bon, ça arrive encore. Je vais laisser quand même la parole à Monsieur le Président Yazid de nous rappeler l'historique de la création de cet asso et présenter ses missions. Donc Yazid, tu laisses la parole à Alix d'après ce que j'ai
vu. Tu as présenté Alix en premier. C'est ça. Bien séance voudrait que je la laisse présenter et puis elle est à même de le faire pour nous.
Merci Alix, je vais te laisser te présenter maintenant parce que du coup Yazid a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Alors Alix, décris-nous un petit peu ton parcours et quel est ton rôle au sein de l'association, même si on a dit que tu étais chargée de mission, mais ça consiste en quoi exactement être chargée de mission au sein de SET?
Alors j'ai un parcours, j'ai un master en santé publique, plus précisément en promotion de la santé et en prévention à l'école des hautes études en santé publique. J'ai été médiatrice en santé pendant le Covid sur ce projet, mais du coup dans les quartiers du centre de la ville, donc avec un autre programme qui s'appelle Coresan, qui est du 1er au 8e arrondissement. Et par la suite, j'ai fait un stage au CESTIM, donc c'est un centre de recherche qui est intimement lié au projet aujourd'hui et qui participe à tout le projet sur le volet scientifique et sur l'évaluation de l'action du coup et de son efficacité. Et ensuite, je suis arrivée à SET en tant que chargée de projet. Et du coup, mon rôle ici, c'est surtout de faciliter le travail des médiatrices sur les territoires et de faire le lien du coup entre tous les acteurs de ce projet. Donc, par exemple, le CESTIM, l'ARS, donc l'ARS qui est notre financeur, et Santé publique France et plein d'autres partenaires, faire aussi faciliter aussi du coup le travail des médiatrices. Tous les jours.
Je remercie Alix. Alors, je vais peut-être passer la parole au docteur Adigi. Bon, on vous remercie une nouvelle fois d'être présent avec nous. Et pareil qu'Alix, on vous laisse vous présenter et nous décrire le rôle de médecin coordonnateur de l'association. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Donc, bonjour à tous, docteur Adigi, je suis le médecin coordinateur de SET. J'interviens surtout sur la partie médicale. Donc, je coordonne toutes les actions qui visent la santé publique, entre autres les actions de prévention. SET se fait un point d'honneur à aller vers les patients les plus fragiles de nos quartiers. Alors, porter une information claire, précise et dans un langage simplifié pour cibler la population cible et leur parler des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au niveau du point de vue médical. Donc l'accès au dépistage peut parfois être mal compris, pas assez tangible pour certains. Connaître la maladie, la définir et l'expliquer, parfois ça améliore la qualité de compréhension et le côté tactile de la chose. Simplifier les maladies à une personne qui a du mal éventuellement à parler le français, donc lui expliquer avec des termes ou voire à une langue qui pour lui plus tangible et plus compréhensible. Donc notre action va consister surtout à axer la prévention sur le rattrapage vaccinal. Donc, revoir le carnet de santé des enfants des quartiers, des personnes vivant dans les quartiers et les personnes âgées en particulier. Axer la prévention sur le dépistage du cancer du côlon, qui malheureusement est un fléau. On a des kits à notre disposition pour dépister ce cancer-là. Et la majorité des patients, malheureusement, ne procèdent pas à ce prélèvement. Et donc, ils se privent d'un moyen très facile pour dépister éventuellement un cancer débutant qui peut être pris en charge et éviter malheureusement de subir des catastrophes futures au niveau familial. L'autre accès, ça sera le point important aussi, c'est le dépistage du cancer du sein. On sait qu'une femme sur 8, malheureusement, est confrontée dans sa vie à un cancer du sein. Donc c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Et malheureusement, sur les quartiers nord, le dépistage, le taux de dépistage, il est très très faible. Donc on part de loin et on va essayer d'améliorer, j'espère, ce taux et prévenir ces cancers-là au sein de la population marseillaise et celle des quartiers nord en particulier. L'autre point, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus et surtout la manière dont on peut se prévenir, puisque le cancer du sein de l'utérus, dans la grande majorité des cas, c'est dû au papillomavirus, et on peut en échapper grâce à un vaccin qui est très mal connu par nos jeunes surtout, puisque ce vaccin-là est destiné plutôt pour les jeunes filles et les jeunes garçons, dès l'âge de 11 ans. Malheureusement, la couverture nationale pour ce vaccin-là est de moins de 30% de la population qui est couverte par ce vaccin. Or, c'est un vaccin qui fait partie du carnet vaccinal, qui est remboursé par la Sécurité sociale, mais personne n'en bénéficie par manque d'informations et aussi par manque de propositions. Moi-même, personnellement, personnel de santé, j'en parle très peu, faute de temps, mais il faut qu'on prenne ce temps-là pour couvrir au mieux nos enfants, les protéger d'un éventuel cancer du col de l'utérus pour les jeunes filles et le cancer du rectum pour les jeunes garçons.
Justement, la question, c'est pourquoi les médecins ne sont pas sensibilisés à ça? Évidemment, les patients ne peuvent pas deviner qu'il y a ce type de vaccin. Pourquoi ce n'est pas répandu, ce genre de préconisation?
La première chose, c'est qu'on est débordé au niveau sein de nos cabinets. On travaille à 200 à l'heure, donc on est surchargé. Et parfois, on manque de vigilance et on manque de temps pour informer les parents ou les enfants de la possibilité de les vacciner. Néanmoins, un mea culpa, c'est que ce vaccin-là, il fait partie du carnet vaccinal. Donc, si on ouvre le carnet de santé de son enfant, à la page 88, je crois, de mémoire, il y figure. Donc vous, parents aussi, vous avez votre part de responsabilité. C'est pas que le médecin. Et donc, on va partager les torts. Mais l'association 7, elle va venir vous aider et vous faire rappeler. Donc l'apport de l'information, un rappel de l'information est vachement utile pour nous tous. Et entre autres, on va essayer de venir dans les quartiers, en discuter avec vous, faire des ateliers, vous informer et vous conseiller d'aller voir votre médecin traitant. Si lui, il n'aborde pas le sujet, c'est vous-même qui allez l'aborder et éventuellement vous faire vacciner contre le papillomavirus.
Oui, tout à l'heure, j'ai écouté des chiffres. C'était vraiment impressionnant, le nombre de personnes que vous touchez. Et pourtant, vous êtes quand même une équipe réduite. Yazid, ou...
Oh, a priori, il marche au micro. En tout cas, avant toute chose, avant tout propos, merci pour votre accueil. C'est toujours agréable de venir à Maméga et sur les ondes de Radio Galère, donc c'est pas la première fois qu'on vient et on vient avec plaisir.
Merci à toi d'être toujours présent, justement.
Bah, écoutez, je reconnais le travail qui est fait et je viens avec vraiment plaisir. Tu disais tout à l'heure concernant l'impact des chiffres qu'on vient de citer. Encore une fois, on n'est pas tout seul, on est une équipe réduite. Alors, ces chiffres-là, nous étions à peu près 13 médiateurs et médiatrices sur l'ensemble du territoire du 9e jusqu'au 16e arrondissement. Là, on est encore un peu plus réduit. Néanmoins, sur cet impact-là, on l'a fait grâce aux partenaires. Encore une fois, lorsqu'on vient dans un territoire, on ne vient pas comme ça dans un terrain vierge, fertile, qui n'a pas été travaillé par des associations, par des partenaires. Bien au contraire, il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui doit être mis en valeur. Et nous, lorsqu'on vient, justement, c'est cette reconnaissance de ce travail qui est fait, puisqu'on va voir les partenaires, quel que soit le partenaire. Ça peut être des associations religieuses, des associations culturelles, des associations sportives, des associations... formels, des collectifs totalement informels, toutes les personnes qui sont en capacité de ramener du monde et de relayer l'information, nous allons la voir et discuter avec eux. Donc oui, ces chiffres peuvent être impressionnants. Pour ma part, je vais quand même... Alors c'est peut-être le rôle du président que de pas être satisfait tout le temps, peut-être. Pour ma part, je vais les modérer par rapport au nombre d'habitants qu'on a sur ce territoire. 9000 vaccinations sur à peu près 350-360 000 habitants, J'allais te dire, c'est pas forcément grand-chose. Alors, ces 9000 vaccins faits par notre asso, ces 9000 personnes qui, de toute façon, ne seraient pas fait vacciner, ces 9000 personnes qui ont été vaccinées à domicile, des personnes âgées, on a fait du porte-à-porte, ça nous a permis de voir des personnes qui n'étaient pas touchées par des associations, des personnes qui étaient totalement invisibles. J'allais te dire, c'est 9000 invisibles. Là, je vois le verre à moitié plein, ça me rassure. Mais je me dis que c'est quand même beaucoup de personnes qu'on aurait pu toucher et qu'on ne touche pas. Encore une fois, la santé dans nos territoires, et vous le savez mieux que moi, c'est le troisième, quatrième, voire cinquième sujet, centre d'intérêt des habitants. L'éducation, l'habitation, le mal logement, l'alimentation, l'insécurité, tout ceci déjà les contraint à réfléchir et à essayer de vivre au jour le jour. La santé, et notamment je pense aux femmes qui ont tendance à se négliger à ce niveau-là, la santé malheureusement est un élément, un sujet peut-être tabou pour certaines, un sujet qui n'est pas au devant de la scène alors qu'il devrait, notamment, on parlait du cancer du sein par exemple, au-delà du dépistage organisé, une mammographie qui est, j'allais vous dire, conseillée vivement à partir de 50 ans, chaque femme, dès l'âge de 25 ans, devrait aller voir au moins une fois un gynéco. Alors, il y a des facteurs, comme on l'a dit, hein, les facteurs que je viens de citer, qui font que les gens, la santé n'est plus un sujet. Effectivement, il faut qu'on puisse justement leur dire que si vous n'avez plus la santé, eh ben vous ne pourrez pas vous battre pour avoir un accès au logement, pour avoir un accès à vos droits, pour avoir... Et nous, ce qu'on réclame, tout simplement, c'est qu'on ait une santé qui soit égalitaire sur tout le territoire marseillais. Et on en est très loin, malheureusement. On en est très, très loin. Et notre stratégie d'aller vers la population, c'est de se dire que on leur apporte de l'information par le biais de la prévention, par le biais d'ateliers, mais aussi on leur apporte un accompagnement. Et j'insiste sur ce terme. Parce que l'injonction de dire aux uns et aux autres, il faut que vous fassiez dépister, quel que soit le dépistage, c'est une chose. Leur montrer, ça commence par là déjà, qu'ils puissent comprendre comment déjà faire un dépistage. Je passe notamment aux hommes, parce qu'on leur donne un kit, débrouillez-vous avec ça, qu'est-ce que je fais, comment je fais, pas d'informations. Et puis les accompagner vers le soin. Je pense que c'est notre devoir que de le faire. Aller voir quelqu'un, de lui dire va te faire vacciner ou va te faire dépister, c'est bien, mais si il prend rendez-vous dans un territoire où vous avez une offre de soins qui est nettement inférieure par rapport à au reste de la ville, ben, nous, on a travaillé justement ce balisage-là. Hier, on était en réunion avec une responsable de la PHM pour justement travailler autour d'un accès facilité aux patients qui viendraient par nos soins, pour justement faire des mammographies, faire des biopsies. On va travailler ce balisage avec les autres hôpitaux qui sont dans le territoire, hein, la Véran, si c'est possible, la clinique privée Beauregard ou autre, tout en sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait de dépassement d'honoraires parce qu'on est dans une population qui n'est pas en capacité de payer. Et nous, on est là pour assurer le suivi. On est armé, on est équipé, on a du matériel pour pouvoir les accompagner, on a du matériel pour pouvoir faire des actions de dépistage en pied d'immeuble comme on l'a eu l'occasion de le faire lors de la Covid. Voilà, je demande juste, et ça c'est un message que je passe à tous les partenaires qui seraient susceptibles de nous écouter dans les différents territoires, hein. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à nous faire intervenir. De toute façon, c'est une action qu'on co-construit. On ne s'implante pas dans un territoire sans prévenir le partenaire.
Merci Yazid. Alors on va se... Je vois que Jean-Marc a envie de réagir, donc on va lui laisser la parole.
Oui, bonjour. C'est au niveau de la démarche que vous entamez, que vous faites de façon permanente et récurrente, c'est à savoir comment lutter contre les représentations. Parce que lorsqu'on parle du vaccin concernant les jeunes filles, les adolescentes et autres, à un moment donné, l'image était qu'il y avait la sclérose en plaque. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Comment faites-vous pour pouvoir convaincre? Ça a été pour le vaccin contre le virus et autres. Il y a toutes ces idées de représentation. Qu'est-ce que vous apportez de plus pour lutter contre les différentes stigmatisations concernant les vaccins et autres?
Notre action, elle va être très claire et nos conseils vont être vraiment précis. Pour ce qui est de la vaccination, donc les données scientifiques, ils évoluent tous les jours et ils s'améliorent. Concernant la sclérose en plaques, figurez-vous, fut un temps, on disait le vaccin de l'hépatite B, on l'accusait comme quoi il déclenchait la sclérose en plaques chez les jeunes filles ou chez les personnes atteintes de... susceptible d'avoir la sclérose en plaques, ça réveillait éventuellement la maladie. Ben, la science, elle a évolué. Figurez-vous, maintenant, pour traiter la sclérose en plaques, on oblige ces patients à se faire vacciner contre l'hépatite B. pour certains traitements, on est obligé de les vacciner pour pouvoir leur prescrire ce traitement-là. Donc, des fausses accusations couvrent pas mal de vaccins. Les antivax seront toujours là pour essayer de démontrer le contraire, mais jusqu'à preuve du contraire, les vaccins nous sont utiles pour nous, humanité, et heureusement qu'ils sont là. On peut les perfectionner, on peut les critiquer, d'accord ? Mais le bénéfice-risque reste majeur pour les vaccins. Après, nous, on va parler des vaccins les plus classiques. Donc, on ne va pas s'égarer. Un simple rappel du tétanos, pour une population qui est couverte à peu près à moins de 60% d'entre nous sont à jour de leur vaccin tétanique. Pendant les deux années de Covid, il y a eu un retard de 150 000 doses de vaccins tétaniques, donc ce qui est énorme. Donc on va partir de loin et on va essayer de grignoter petit à petit. Après, on va parler de l'hépatite B, on n'a rien à cacher. Les vaccins, l'hépatite B reste quand même une maladie qui est mortelle, il ne faut pas oublier. Donc là, on va conseiller la vaccination HPV pour prévenir un cancer. Donc je vous rappelle, un cancer, on peut en mourir. C'est pas automatique, mais ça reste quand même une maladie qui peut être très grave. Dites-vous que les vaccins sont faits pour des maladies qui nous est potentiellement mortelles. On peut mourir du tétanos, on peut mourir de diphtérie, de la poliomyélite, de la coqueluche. Donc l'intérêt vaccinal, certes individuel et collectif, reste très très avantageux pour l'humanité. Et heureusement que Pasteur est passé par là, qui a inventé le vaccin. Donc il faut poursuivre. Certes, la Covid a fait, et comme c'est une nouvelle pathologie, un nouveau virus qui est apparu, etc. Au début on a tâtonné, etc. Mais c'est bien heureux, on ne connaissait pas, donc on découvre au fur et à mesure et on peut améliorer les choses. Là, on a assez de recul pour dire que ce vaccin-là, même s'il n'est pas efficace à 100% contre la maladie, il nous permet d'éviter les formes graves. Donc vous voyez, toujours, c'est toujours un bénéfice qui l'emporte sur un risque pour ces vaccins-là, et on est là pour en parler. Et on va répondre aux questions de tous les auditeurs, on va répondre aux questions de tout citoyen qui va nous la poser. On n'a rien à cacher, on a tout intérêt d'apporter une information claire, précise, pour rassurer et pour inciter la personne à se faire vacciner.
Je crois que ce serait intéressant de revenir sur l'idée de bénéfice-risque, parce que bon, on a pu d'entendre ce genre d'expression. Peut-être il faut être très, très précis et pédagogique sur cela.
Le risque, c'est qu'est-ce que j'encours, moi, à titre individuel, si je ne me fais pas vacciner. Donc, je vous ai dit, éventuellement, tomber malade et au pire, en mourir. Ou garder des graves séquelles. La poliomyélite peut vous rendre paralysé des membres inférieurs. Vous côtoyez peut-être des personnes que vous voyez dans la rue boiter, déambuler, la hanche bien bloquée. Ce sont malheureusement des personnes qui ont été affectées de la poliomyélite. Or, la poliomyélite, on a un vaccin qui est presque centenaire maintenant. Donc, on peut prévenir ça. Donc, ça serait dommage que notre enfant souffre d'une poliomyélite et garde une séquelle à vie alors qu'il y avait un vaccin disponible. La coqueluche, on entend toujours parler. Certes, ce n'est pas une maladie. Peut-être par an, on en a 2000 cas. Mais sur les 2000 cas, malheureusement, on en a une quinzaine de mortels. Donc, ça touche plutôt les adolescents. Donc, c'est pareil. Tant qu'on n'est pas affecté à titre personnel, on dit que ce n'est pas grave. Mais si c'est notre propre enfant, on dit... Ah, peut-être là j'ai commis une erreur, on peut se le reprocher à vie, quoi. Si on perd un être cher à nous en disant que j'ai pris la responsabilité de ne pas le vacciner alors qu'il y a un vaccin disponible, c'est gravissime et il faut vivre avec. Le bénéfice, c'est toujours qu'est-ce qu'on gagne derrière un vaccin. C'est éviter le pire. Moi, je le définis comme ça. Mon risque, c'est est-ce que je peux assumer que mon enfant ou mon conjoint ou ma conjointe soit atteinte d'un cancer alors que j'aurais pu lui éviter ça, et est-ce que je peux assumer derrière de vivre avec le sentiment de culpabilité qui peut être variable d'une personne à l'autre, mais je veux pas non plus culpabiliser l'auditeur, dire oui, si je me fais pas vacciner, je suis coupable. Non, c'est juste l'amener à réfléchir. Chaque décision doit nous amener à réfléchir. Pourquoi je choisis de ne pas me faire vacciner et pourquoi j'ai intérêt à me faire vacciner? Et cette balance-là, il faut la trouver en soi, avec des informations qui me sont données. Et après, la décision toujours revient à la personne de se faire ou de ne pas se faire vacciner.
Et je rajouterai aussi, du coup, ce que notre équipe apporte, c'est que nos médiatrices sont formées à plusieurs techniques d'entretien. Donc elles ont l'habitude d'être à l'écoute, donc c'est-à-dire que quand les personnes ont des questions, pas juste leur donner de l'information en leur disant voilà les risques, voilà les bénéfices, on va aussi essayer de comprendre concrètement quelles peuvent être les craintes, quelles peuvent être les peurs, qui sont toutes légitimes, et donc essayer d'apporter des réponses concrètes et pouvoir juste les écouter et pouvoir justement apporter une solution derrière.
Ôter la peur du vaccin, c'est très très important. Et donc, à titre individuel, chacun a, on a tous peur de quelque chose. Et donc, si la personne a la peur du vaccin, il ne faut pas lui crier dessus, lui dire oui, ben, t'es con, ou le traiter de quoi que ce soit. Dire, mais pourquoi? Il faut chercher. L'écoute, c'est vachement important. Mais tout en écoutant, on doit l'informer, apporter la réponse à sa problématique. Comprendre qu'est-ce qui lui pose problème, on a résolu, ça résout généralement la solution liée.
Justement, est-ce que vous pouvez donner des exemples de peur, de crainte, et comment vous essayez de les dissiper?
Alors, il y a eu un premier exemple, là, très concret. Donc, par exemple, la sclérose en plaques qui a été une peur...
Mise en cause.
Ouais, voilà. Il y en a d'autres. Hein. Il y a eu, par exemple, il y a eu une peur aussi sur, je me souviens un peu quel vaccin, mais par rapport à l'autisme qui serait lié à certains vaccins. Ça, on sait que c'est des publications frauduleuses qui, étaient des fausses publications de médecine qui ont tout à fait été remises en cause aujourd'hui. Hein. Après, il y en a d'autres. Il y en a des plus simples qu'on voit tous les jours. Donc, par exemple, peur de l'aiguille. Et après, il y a des barrières qui ne sont pas forcément que des craintes, mais aussi... on ne sait pas forcément comment aller se faire vacciner, où aller se faire vacciner, à quel âge aller se refaire vacciner, sur toutes ces barrières-là sur lesquelles on travaille.
De toute manière, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait tout un pataquès pour les 11 vaccins. Or, on les fait déjà depuis pas mal d'années. Si vous regardez le carnet de santé de votre enfant, il est déjà vacciné, effectivement. 11 vaccins, mais c'est des vaccins qu'on a regroupés dans une seule dose. Vous avez par exemple pour faire le diénite, la coqueluche et l'homophilus dans une seule injection. Donc là, ça vous fait déjà 4, d'accord ? Et c'est pas pour autant qu'on a eu des problèmes avec ces vaccins-là. Donc vous-même, si vous regardez votre propre carnet de santé, vous allez voir, vous avez fait pas mal de vaccins, ça vous a pas empêché de vivre et d'être en bonne santé. Donc on accuse parfois à tort les vaccins. Il y a un lobbying anti-vaccin qui est très 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 important et très grand. D'ailleurs, je vous conseille, lorsque vous vous renseignez sur une maladie ou sur un vaccin éventuellement, lorsque vous allez sur Internet, regardez pas les premières pages, parce que ce sont des pages qui sont financées par des publicitaires, donc par un lobbying. Commencez à regarder la troisième, la quatrième, voire la cinquième page. Là, on commence à avoir des informations un peu plus cohérentes et un peu plus logiques, et qu'il n'y a pas un lobbying derrière.
Yazid, tu voulais dire quelque chose?
Très, très, très rapidement et simplement, concernant les taux de personnes vaccinées et les taux de personnes dépistées, on reste quand même sur des taux importants. En France, on a une bonne couverture vaccinale. Par contre, concernant le dépistage, par exemple le cancer du sein, on est sur des taux dans nos secteurs qui sont nettement inférieurs. Pour autant, ce ne sont pas des gens qui vont vous dire « Non, non, je suis contre une mammographie » ou « Je suis contre la prise en charge ». Simplement, ce sont des gens qui sont éloignés des soins. Il y a aussi cette grosse part de manque d'informations. Et puis, pour une infime partie des personnes qui ont peur et qui jouent la politique de l'autruche. Mais la grosse majorité, ils oublient. Ils sont dans leur quotidien. Ils oublient de faire un rappel. Et moi, quand je regarde ces chiffres, je me dis effectivement, des vaccino-sceptiques, ils sont à la marge. On en parle parce que c'est important d'en parler, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Mais quand je vois la vaccination, je me dis finalement ça va. Si on pouvait avoir la même couverture, au niveau des, la même réponse au niveau des dépistages organisés, quel que soit le dépistage, les femmes, les hommes, tout dépistage dans nos quartiers, ben je serais satisfait de me dire qu'il y a quand même plus de 60% qui sont dépistés, quelle que soit la pathologie. Donc voilà, nous on écoute essentiellement. Je pense qu'il faut être humble, il faut comprendre. Dans un second temps, écouter, comprendre et proposer des solutions. Voilà. Proposer des solutions, on n'est pas des psys, mais simplement apporter des éléments pour que la personne puisse changer. Par exemple, ça se traduit, tu voulais un exemple concret, sur une prise de rendez-vous. Très simple. On va au domicile et des personnes, on discute avec la personne, quelle que soit la personne, homme ou femme, j'ai besoin, je ne sais pas faire un kit. On a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. On lui a montré comment on fait, il y a des amis de Coressane qui ont fait ça, une vidéo traduite en comorien pour expliquer comment on fait un kit dans le cadre du cancer colorectal. Et pour le dépistage, ben nous, ça se traduit notamment, on est en octobre, donc on va parler d'octobre rose, ça se traduit par un buste d'autopalpation pour apprendre aux femmes comment palper, une éventuellement s'autopalper régulièrement pour voir une anomalie. Et si effectivement on aura une sage-femme qui sera dans la boucle, si effectivement derrière il y a une anomalie, ben, nous on est en capacité de décliner toute l'offre derrière, c'est-à-dire de prise en charge, tout en sachant bien sûr qu'on renvoie systématiquement vers le médecin traitant, qui pour ma part a un rôle prépondérant.
Je te remercie Yaïd, je vous remercie tous les trois pour vos réponses. On va se laisser avec une pause musicale. Une maladie qu'on aimerait bien tout savoir, parce qu'elle n'est pas grave, c'est la maladie d'amour. Donc maladie d'amour d'Henri Salvador.
Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si vous aimez moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha si vous aimez moi, ou à marcher de moi. Bich mimi piti, y piti tout piti. Si y'en t'y sait pas rage, mes amis méfiez-li. Quand t'y tête li en l'air, veillez garder l'angli. C'est la mort, c'est mitié en bataille. En bout de c'est la mort, c'est mitié en bataille. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha si vous aimez moi, ou à marcher de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha si vous aimez moi, ou à marcher de moi. Pich mimi piti, y piti tout piti. Si on t'y sait pas grage, mes amis m'épiélis. Quand tu t'es lié en l'air, veille garder la lit. En bout de lit, c'est la mort, c'est mitié en bataille. En bout de lit, c'est la mort, c'est mitié en bataille. En bout de lit, c'est la mort, c'est mitié en bataille. C'est le mort, c'est mitié en bataille.
Un million de tests PCR réalisés pour une maladie dont on n'entend plus parler. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu, vous êtes dans le secret des dieux, entre guillemets, c'est ce qu'il en est actuellement.
C'est une maladie qui est cyclique, mais qui n'a jamais disparu. Elle est toujours présente. Certains n'en parlent pas. Peut-être elle ne fait plus la une des journaux. On a moins peur du Covid qu'auparavant. On est mieux armé surtout pour la lutte contre Covid qu'auparavant et grâce à la vaccination, une couverture vaccinale qui est presque au-delà de 75%. Donc je vous rappelle que le vaccin ne guérit pas, il ne vous empêche pas de tomber malade de la Covid, juste il protège contre les formes graves de la Covid. Et c'est grâce à ce taux vaccinal et cette couverture vaccinale que de nos jours, le Covid fait moins de victimes. Donc certes, le variant actuel, l'Omicron BA1 et BA2, est moins virulent que les autres souches, Mais grâce à la vaccination et que la présence d'anticorps chez beaucoup de personnes de la population française a permis que ce Covid-là soit moins dangereux. Et si vous êtes affecté par le Covid et si vous n'avez pas de facteur de risque surtout, donc si malheureusement il continue à faire quelques dégâts chez les personnes obèses, hypertendues, diabétiques, donc il faut continuer à faire attention. Mais grâce à la vaccination, je pense que ça a permis le recul qu'on a constaté. Vous parlez qu'il y a eu 1 million de tests PCR réalisés récemment. Bon, le chiffre il est un peu biaisé parce que ça inclut tous les tests PCR que des personnes qui étaient en voyage dans les pays exigent l'entrée sur leur territoire de présenter un test PCR. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont leur schéma vaccinal est périmé, donc ils sont tenus de présenter des tests PCR négatifs pour aller à l'endroit ou à un autre. La rentrée scolaire aussi a fait exploser un peu les chiffres parce que les enfants sont retournés à l'école. On a eu une petite période de refroidissement de température aussi, donc les rhumes, etc. Ben on s'inquiète, hein, notre petit il est enrhumé. La première chose à laquelle on pense, c'est éventuellement en Covid. Donc c'est vrai que ces chiffres-là sont importants, néanmoins, Le taux, donc on parle de 70 000 cas positifs sur la région PACA. De mémoire, je crois on est à 253 personnes, donc c'est relatif, c'est peu et tant mieux, mais l'explosion des tests ne fait pas forcément ressurgir la maladie, ou en tout cas la gravité de la maladie est beaucoup moindre que par le passé. Donc ça nous rassure. Il faut continuer par contre à être vigilant. Les mesures barrières, il faut toujours les respecter et prendre soin des personnes les plus fragiles d'entre nous, poursuivre la vaccination. Et donc j'invite les auditeurs à faire leur 4e dose pour certains, donc, et rattraper le schéma vaccinal pour les autres. Donc je vous rappelle, le vaccin ne vous protège pas contre la Covid, mais vous protège contre les formes graves de la Covid.
Oui, en ce moment, les symptômes sont très légers. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire comme si c'était une rhume, on s'en fiche ? Ou est-ce qu'il faut quand même consulter ?
Consulter toujours, parce que ça permet de vous dépister, d'une. Donc, le savoir qu'on est atteint de la Covid engendre des mesures de protection vis-à-vis des personnes de votre famille. Donc, limiter la contamination, s'isoler comme on l'a toujours fait depuis 2 ans. Traiter les personnes les plus fragiles. Vous savez qu'il y a un nouveau médicament depuis à peu près un an qui est prescrit maintenant pour la réplication du virus, qui bloque la réplication de Paxlovid. Et donc ce médicament-là, on propose aux personnes les plus fragiles, les plus à risque, ceux qu'on a un fort doute qui vont développer une forme grave et éviter. Et avec ça, on peut éviter éventuellement la réanimation. Donc, mais ça reste un médicament qu'il faut prescrire dans les 5 jours de la contamination. Donc il faut vraiment consulter lorsqu'on on a le moindre doute et lorsqu'on est malade, et surtout lorsqu'on est fragile. Je vous rappelle, les personnes obèses parmi nous, les diabétiques, les hypertendus sont les personnes les plus touchées par la Covid, et ils sont les plus à risque de développer la forme grave. Donc il faut continuer à être vigilant. Le Covid fait moins la une. Effectivement, avec la guerre d'Ukraine, on en parle peu, mais il est toujours présent et malheureusement, il peut faire aussi encore des victimes. Mais heureusement, c'est beaucoup moins grave, moins fréquent qu'auparavant.
Lors de vos campagnes de dépistage, les personnes, les patients que vous rencontrez, qui ont été atteints par le virus, mais par la Covid, mais grave, vous font-ils part de leurs inquiétudes concernant des problèmes de poumons ? Parce qu'il y en a certains qui, jusqu'à présent, qui sont confrontés à des problèmes pulmonaires. Qu'en est-il et comment les rassurer ? Est-ce que vous les poussez à nouveau à se faire vacciner ? Ou qu'est-ce qui peut être mis en place, par exemple ?
Là, vous parlez du Covid de l'an. Et effectivement, malheureusement, beaucoup de personnes qui faisaient partie des personnes les plus fragiles ont contracté la Covid et ils ont gardé des séquelles. Là, donc, la dyspnée, l'essoufflement, beaucoup, ils ont fait des péricardites, des endocardites, voire des problèmes vasculaires, des phlébites. et surtout une fatigue et parfois un trouble de la mémoire. Donc on est à presque 2 ans du Covid et malheureusement, oui, il y a une forte proportion de ces personnes-là fragiles gardent encore des séquelles. Et ça nous indique qu'on doit rester toujours vigilant et surtout essayer d'éviter au maximum ces séquelles-là. Donc la vaccination, elle est surtout destinée à faire diminuer notre risque de développer un Covid lent. Donc moins la maladie fait des dégâts, donc la Covid fait des dégâts dans notre corps, moins on est à risque de développer une forme longue du Covid. Donc ces personnes-là, oui, souffrent malheureusement. On les incite à se faire vacciner, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'il a un Covid lent qu'on doit pas le vacciner, bien au contraire, il a déjà souffert dans sa chair du Covid, et donc il faut doubler de vigilance et le proposer le vaccin dès que les délais dans le schéma vaccinal est invalidé. Il faut bien sûr qu'il procède à sa 3e voire 4e dose pour certains.
Justement, la 4e dose, elle est destinée à qui, à part aux personnes atteintes de Covid long?
La 4e dose, elle est destinée presque à tout le monde, je vous dirais. Certes, les personnes de plus de 60 ans, toutes les personnes fragiles, d'accord, nous, professionnels de santé, toutes les personnes qui sont exposées au Covid, qui travaillent dans un milieu à risque, et sincèrement, à la population générale.
Et est-ce que vous, Seth, vous continuez à vacciner sur le territoire ou pas? Il faudrait se rendre à un vaccinodrome? Je ne sais même pas si c'est encore en service, sincèrement. On n'a tellement plus entendu parler que... Voilà, donc j'ai la réponse, non.
Les vaccinodromes ne sont plus en service, mais nous, on continue à vacciner, on continue à faire la vaccination à domicile grâce à nos infirmiers, à nos équipes de soignants. Personnellement, je vaccine à mon cabinet, au centre d'urgence, on continue. La guerre, elle continue, elle n'est pas finie, elle n'est pas gagnée. On s'habitue, mais il ne faut pas prendre les mauvaises habitudes. Donc non, on ne baisse pas les bras, il faut continuer à être vigilant. On a gagné une bataille, mais pas la guerre.
Merci. Jean-Marc, une intervention?
Le doublon, grippe et vaccin contre la Covid, est-ce possible? Est-ce envisageable? Ou bien faut-il différer les deux vaccins? Peut-on les faire ensemble ou pas? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui appréhendent de se faire vacciner en même temps, d'un bras contre la grippe et l'autre contre la Covid.
La double vaccination Covid et grippe est tout à fait possible. On l'a proposé déjà depuis un an à nos concitoyens français. Et donc, oui, on peut profiter de la vaccination de la grippe pour faire notre nouvelle dose de Covid. Juste la seule précaution, c'est 2 points d'injection différents. Donc, par exemple, un bras droit, un bras gauche. Mais c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci à se faire vacciner de la grippe et de la Covid le même jour.
Un autre sujet, la psychiatrie. Suite à ce qui s'est passé avec le Covid, notamment au niveau des écoles, etc., est-ce que vous savez s'il y a des choses qui se font sur la prévention, sur comment traiter les problèmes? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de séquelles dans la population en général, et les plus jeunes en particulier.
Malheureusement, comme vous le savez, ce domaine-là, c'est le parent pauvre de la médecine d'une manière générale. Et à ce titre, au niveau de la prévention, il n'y a pas eu grand-chose, en tout cas dans nos territoires, je parle de nos territoires, qui a été fait en ce sens. On a essayé de faire verbaliser, notamment pendant le premier confinement, auprès des enfants, par des dessins, par un accompagnement, alors on n'est pas psy, mais par un accompagnement comme on pensait être bon vis-à-vis des gamins pour dédramatiser la période du confinement qui, mine de rien, a fait beaucoup de séquelles auprès de gamins qui ont été déscolarisés, désociabilisés, auprès de familles qui se sont retrouvées enfermées dans un petit dans leur appartement, dans leur vie, et ça a été très compliqué pour tout le monde, pour les parents comme pour les enfants. Donc on a eu, dans le cadre de nos ateliers, des discussions croisées entre les enfants et les parents. De dire que on s'est spécialisé ou qu'on a travaillé cette question en particulier, non. La thématique est tellement lourde, tellement vaste, qu'il faut, à mon avis, pour être pris sérieusement, que ça soit des professionnels qui s'en emparent. Dans certains secteurs et au niveau national, ça a été fait. Au niveau local, à ma connaissance, et je peux me tromper, et je suis désolé si j'ai oublié des acteurs, mais à ma connaissance, dans nos territoires, j'ai pas vu de psychologue qui faisait le tour et qui parlait justement de cette période-là, parce que on parle de la vaccination, on parle de Covid, mais il faut parler aussi de la période du confinement, qui, à mon sens, a fait des dégâts des décrochages scolaires, des dégâts sociaux énormes, énormes. Nous, on a pu le voir, hein, psychologiquement, on a suivi des patientes qui avaient peur de sortir, et notamment des personnes âgées. Peur de sortir parce qu'elle avait peur de la vaccination, et on le voit encore autour de nous, des gens qui portent un masque FFP2 avec des gants et qui sont très précautionneux et sont souvent des personnes âgées. Voilà, ça fait partie quand même de notre travail en rappelant les gestes barrières, en rappelant que la vaccination, ça protège des formes graves, mais qu'il ne faut pas non plus relâcher la vigilance par rapport à ce Covid. Mais encore une fois, c'est l'état de la société générale qui nous inquiète. On voit qu'il y a quand même une impatience généralisée. Dans certains endroits, dans certains secteurs, une violence qui commence à être verbale, gestuelle. Pas plus tard, et je porte tout mon soutien à ce médecin qui s'est fait agresser dans le 15e au boulevard Odeau, où malheureusement les gens n'ont pas souhaité patienter et ils l'ont agressé. Donc voilà, on est confronté à, j'allais te dire, à une société qui va mal, qui est malade. Et je pense que si j'ai un petit message et si on est écouté par les institutions, il faudrait qu'il y ait un peu plus de psychologues, un peu plus d'accompagnement à ce niveau-là. Il manque énormément.
Merci. On va encore faire une pause musicale avec un morceau d'Olivia Ruiz, La femme chocolat. Du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère en compagnie du docteur Adidji, d'Alix Fruleux et de Yazid Attala. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les nouveaux travaux, comme les a caractérisés Jean-Marc, les nouveaux travaux de CET. Alors, quelles sont ces nouvelles missions ? Par qui sont-elles choisies? Vous nous avez déjà apporté la réponse tout à l'heure, Alix. Enfin, une partie de la réponse, je ne pense pas que ce soit uniquement l'ARS qui commandite ce sur quoi vous agissez. Vos partenaires opérationnels, donc on a bien compris. Mais je vais vous laisser quand même parler parce que je monopolise un peu trop la parole et je n'aime pas ça.
Donc sur les nouvelles missions, comme on l'a déjà un peu évoqué, on est vraiment sur la prévention et l'accompagnement, sur les dépistages des cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal, et sur le rattrapage vaccinal. Et donc ces nouvelles missions, oui, elles ont été mandatées par l'ARS, c'est des choix de l'ARS. Alors pourquoi ces choix-là tout de même? C'est parce qu'on sait que justement sur nos territoires, eh bien, on est en retard sur toutes ces thématiques, et que ce sont des enjeux de santé publique importants pour améliorer la santé des habitants. Voilà. Et donc sur les nouveaux formats d'action, on est toujours sur de la médiation en santé, comme on l'a dit, pour permettre un accompagnement individuel et personnalisé. On va être aussi du coup sur des sensibilisations dans des associations. Donc ça sera tous les partenaires du quartier, dans les centres sociaux, dans les associations de quartier, dans les associations d'habitants, etc. Et donc là, sur les sensibilisations, ce sont les médiatrices qui gèrent ces sessions de sensibilisation, qui ont pour objectif d'être interactives et qui sont faites du coup avec des formats assez ludiques pour pas justement, comme on l'a dit, juste donner de l'information, parce qu'on sait que de toute façon c'est pas comme ça qu'on retient vraiment les informations. Et on a aussi du coup les médiatrices ont déjà commencé et vont continuer aussi à faire du porte-à-porte. Donc ça permet aussi de toucher un public qui justement ne va pas forcément côtoyer des associations ou sort moins et ont des barrières d'accès tout simplement. Et aussi surtout, on a maintenant un bus de prévention qui va être très prochainement mis en place du coup dans les quartiers d'intervention. Et donc ce bus, c'est pareil, ça permettra aux médiatrices donc d'informer les gens, de les sensibiliser, de discuter avec eux de leurs problématiques de santé, et aussi de faire des consultations. Donc comme le disait Yazid tout à l'heure, on aura une sage-femme avec nous, on a aussi des infirmiers et infirmières, et le docteur Adjidji. Et donc ce bus permettra justement de sillonner un peu les quartiers d'intervention et de discuter avec les habitants de leur santé et de proposer des solutions directement.
Justement, ces quartiers, quels sont-ils? Du moins, sur quel arrondissement vous allez intervenir?
Alors, donc on est du 13e au 16e arrondissement. On est pour l'instant sur des quartiers assez précis, étant donné que pour la première année, on se concentre sur certains quartiers. Dans le 13e, on est autour de Malpassé, les Oliviers, les Lauriers. Dans le 14e, on est autour de la Busserine. Dans le 15e, on est autour du boulevard Odo. Et dans le 16e, on est autour de l'Estac Gravitz-Labro. Donc ça, ce sont des quartiers précis justement pour pouvoir focaliser nos actions sur la première année. Et ensuite, on déploiera l'action dans d'autres quartiers, ce qui ne nous empêche pas de participer à quelques actions évidemment dans d'autres quartiers si besoin. Et voilà. Et donc là aussi, on commence Octobre Rose. Octobre Rose, c'est une campagne nationale qui est mise en place chaque année, qui a donc pour but de faciliter, de mettre en avant surtout le dépistage du cancer du sein. Et donc on participe à plusieurs actions dans nos quartiers d'intervention avec beaucoup de partenaires sur ces actions. Et donc Octobre Rose, ça nous permet justement de focaliser dans un premier temps nos actions sur le cancer du sein, mais pour nous, travailler sur le cancer du sein, ça se fera évidemment pendant toute l'année. Et pour vous donner quelques chiffres, du coup, le cancer du sein, c'est environ 59 000 nouveaux cas par an, plus de 12 000 décès par an. Et pris tôt, un cancer du sein, ça guérit à plus de 99%. Donc c'est pour ça qu'on met autant en avant le dépistage du cancer du sein, parce qu'on sait que il y a des fortes possibilités de guérison. Voilà sur l'occasion.
Peut-être une question un peu pratique. Pour vous faire connaître, vous faites comment? Quels sont les moyens?
Des claquettes. Non, pour nous faire connaître, la meilleure porte d'entrée, ce sont les partenaires. On ne va pas se mentir. Dans un territoire, même si on commence à être repéré, la meilleure porte d'entrée, ce sont les personnes, les territoires. Donc voilà, nous on communique, on co-construit, j'insiste sur ce terme qui pour moi me plaît beaucoup, hein, c'est un travail d'équipe. Et donc on ne connaît pas tous les publics, donc on travaille avec différents partenaires. Donc c'est la seule option, en tout cas pour laquelle nous on a opté, c'est de venir et de travailler avec des partenaires, tout en sachant que nous on propose des services, les services qui viennent d'être décrits, hein, donc de la prévention, des ateliers ludiques, de l'accompagnement vers le soin, un camion qui, on a eu l'occasion de le mettre en place à la Busserine et dans d'autres quartiers, qui interpelle les gens, donc ça nous permet justement de communiquer. Et puis on a des outils aussi de communication, hein, qui nous permettent. On l'a fait pendant toute la période de la Covid, on n'avait pas de camion, on avait juste une tente et la force de nos bras et parler, aller vers les gens, on sait faire. Interpeller les gens, on sait faire. Maintenant, on a envie de construire, parce que la Covid, on était dans le temps de l'urgence, en permanence. Juste pour rappel, sur notre action, elle ne sortait pas de nulle part. Hein. On avait ce qu'on appelle des points rouges, des hotspots, qui étaient une collecte de données de toutes les personnes qui se faisaient dépister sur un territoire. Et ça nous permettait, comme une carte météorologique, d'avoir une prévision sur la contamination dans un secteur. Et donc nous, on intervenait un peu comme des pompiers avant que le feu embrase le quartier. Et c'est ce que nous faisions pendant quasiment un an et demi. Ça a été un travail très difficile parce que c'était un travail d'urgence. On devait intervenir quasiment pour l'heure lorsqu'on avait ce qu'on appelle des clusters, donc des foyers d'infection dans des centres, dans des endroits de collectivité, dans des squats, de partout. Donc je remercie les médiatrices qui nous ont accompagnés dans ce travail-là et les infirmiers parce que ça a été un travail extraordinaire. Là, on a un temps qui est un peu plus long, un temps où on va pouvoir justement travailler calmement avec les partenaires qui nous avaient sollicités pendant la Covid. Donc on n'invente rien, on arrive, on resollicite les partenaires en leur disant, sur cette thématique, on peut vous mettre à disposition du matériel, du personnel médical, paramédical et des médiateurs. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et après, on fait en fonction de ce qu'ils veulent aussi. Et si maintenant, on voit que dans un territoire, tout le monde nous ferme la porte, ce qui est arrivé malheureusement pour la vaccination, c'est arrivé, on fait du porte-à-porte, on sait le faire aussi.
Justement, de façon concrète, quelles sont les attentes de cette vis-à-vis des partenaires? Comment les choses pourraient-elles se dérouler dans le cadre d'un partenariat? Nous avons déjà travaillé au comité Maïga avec CET, mais lorsque vous faites la démarche, il y a certaines associations, certaines structures qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous leur dites et comment pourrions-nous réellement avoir un travail ensemble et un travail commun? C'est la disposition de locaux, ce sont des animateurs, que c'est quoi?
Très simplement, déjà l'écoute et échanger. Déjà, il faut, je pense, commencer par là, comprendre qui est qui, et savoir comment on peut s'apporter mutuellement. On l'a fait avec vous, hein, au détour d'un atelier écriture, on peut parler avec justement les enfants sur l'impact du confinement de la Covid. On l'a fait à l'époque. Au détour d'un atelier ou d'un match de foot, on peut parler avec les parents qui viendraient. On est en train de co-construire avec le club de foot ici même. Donc on est en train de travailler avec les acteurs pour justement profiter du travail qu'ils font, profiter de la population qui fréquente ces associations et leur proposer nos services. Tout simplement, encore une fois, moi ce que je dis aux associations, on est là pour vous apporter, on n'est pas là pour vous spolier, on n'est pas là pour vous, voilà, pour vous prendre une action. C'est une action très simplement qui se co-construit. Si on a des affiches, on a du matériel, de toute façon on mettra toujours en avant le partenaire. Pour moi, j'ai trop vu malheureusement dans ce territoire ou d'autres des associations qui se tirent dans les pattes, et ceux malheureusement qui subissent ce travail-là, ce sont les habitants. Donc moi, je ne suis pas un professionnel de l'associatif, je peux en parler librement et facilement. Par contre, voilà, j'aimerais que, après c'est un vœu pieux, hein, qu'on puisse travailler main dans la main sur une thématique qui, pour le coup, n'est pas comme le vaccin, rassemble tout le monde. On ne peut pas dire que sur le cancer du sein et les différents cancers, ça n'existe pas, ou on joue la politique d'autruche. Non, on est d'accord. Les chiffres sont quand même importants. 59 000 nouveaux cas par an, je pense que ça peut interpeller les gens, et 99% de chances de guérir si c'est pris à temps. Et moi, je rajouterai des chiffres dans nos territoires où le taux de réponse aux différents dépistages de cancer du sein est catastrophique. On n'excède pas les 20%. On est en dessous de la moyenne nationale. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une mobilisation générale. Et j'en appelle à tous les partenaires. On est à votre service. On veut qu'on construise avec vous. Rien ne se fera dans un territoire sans qu'on passe par le centre social et les associations. Ensuite, quand il n'y a pas ces équipements de proximité, bien sûr que nous, on adapte entre guillemets notre animation, notre atelier en fonction de ce qu'on peut faire. Lorsqu'on va dans un marché, ben, il n'y a pas de centres sociaux à côté. Ben, on va dans le marché et on distribue des prospectus et on parle avec les gens.
C'est un service d'intérêt public, me semble-t-il, le travail que vous fournissez déjà, ce qui est extrêmement important. Mais d'autre part, c'est de savoir si vous touchez un public qui est exclu de tout ça, parce qu'au fur et à mesure, sur les territoires, comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi en situation, c'est-à-dire qui sont sans papier, qui sont en très grande difficulté. Et enfin, il y a des jeunes qui sont pris dans une problématique de drogue et autres. Comment les toucher, comment travailler avec eux, parce que s'ils sont porteurs de toutes ces problématiques de santé aussi.
Je vais te donner une anecdote très simplement. La première action que nous avions menée le 22 février, parce que j'ai encore les photos, avec le camion, c'était à la Busserine, à proximité d'un lieu de deal. Les premières personnes vers qui on s'est tourné, c'est vers ces pauvres petits qui étaient à côté, qui n'avaient pas plus que 15 ans, et on a parlé avec eux de santé, et on a parlé avec eux de leur état de santé, tout simplement. Voilà, ça a été une anecdote, pour nous ça a été très enrichissant. Lorsqu'on intervient dans d'autres points, dans d'autres quartiers, bien sûr qu'on est obligé, malheureusement c'est la problématique qui se généralise dans nos territoires, on est obligé de faire aussi avec cette nouveauté qu'on n'avait pas 5-6 années en arrière, c'est-à-dire un réseau qui quand même structure, enferme malheureusement des fois les quartiers, et on est obligé, lorsqu'on arrive avec un camion ou avec une tente ou avec des médiatrices, dans l'intérêt quand même de ces médiateurs, de ces personnes-là, pour qu'elles ne risquent pas pour leur personne, d'aller en amont faire ce travail-là auprès des réseaux et de discuter avec eux en disant dès demain il y aura une équipe, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous faire dépister, et c'est déjà arrivé. Ensuite, en ce qui concerne les personnes en situation irrégulière, écoute, j'allais te dire, c'est notre rôle de se tourner principalement vers ces personnes-là. On se tourne principalement vers des personnes qui n'ont pas d'accès aux soins. On se tourne principalement vers des personnes qui sont éloignées du soin. On se tourne vers des personnes qui sont en situation de précarité, et je pense que ces personnes-là, sur les trois éléments que je viens de te dire, malheureusement, elles les ont. Lorsque tu n'as pas de papier, que tu vas voir dans un centre médical ou autre, et on te dit ça coûte tant, forcément, tu n'as pas l'argent entre manger ou se soigner. Certains, malheureusement, ont fait le choix de manger. Nous, on propose un autre choix, c'est-à-dire on peut vous accompagner. On a un réseau partenarial et on est en capacité. Je remercie le docteur Adigi parce que je sais qu'il n'aime pas, mais il est en capacité de faire plus que ce qu'il doit faire pour des personnes qui ont moins. Et donc on continue à œuvrer, on touche tout le monde. Comme tu disais, la maladie ne va pas voir si vous avez des papiers ou pas.
Merci Yazid, mais je veux juste revenir sur ce que tu disais au niveau du tissu associatif ou quoi que ce soit. Spoiler les associations, je pense pas que ce soit le cas, parce qu'à ma connaissance, sur le territoire, j'ai pas l'impression qu'il y ait encore d'action de sensibilisation, d'action autour de la santé. Peut-être que je me trompe, mais je me rappelle qu'à une époque, il y avait des ateliers santé-ville qui étaient menés par des associations sur le territoire. Et j'ai plus l'impression que ça se fait. Est-ce que toi, tu as des infos ou...
Non, pas à ma connaissance, encore une fois, sur le territoire, celui-ci ou d'autres. Après, il y a des initiatives qui sont lancées dans d'autres territoires. En tout cas, nous, on vient en complément de ce qui se fait, tout simplement. On n'interviendra jamais dans un territoire où il y a déjà une action de prévention qui est faite, parce que je trouve que c'est perdre du temps et concurrencer, voire même fragiliser une structure qui fait déjà le travail, qui le fait bien. On viendra toujours en complément. Alors, la Busserine, c'est un terrain qui est très, 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 très riche en associations, mais dans ce domaine-là, comme je dis aux différents acteurs, si vous voulez qu'on soit votre branche santé de votre activité, sachez-le, on peut l'être et on le fera avec le sourire.
Merci Yazid, donc c'est un message.
Juste, si tu peux me permettre d'ajouter un élément. Il n'y a pas beaucoup de structures qui seront en capacité de proposer. Alors, je ne fais pas la publicité de cette, hein, mais en tout cas, c'est un choix qu'on a pris, de proposer de la médiation avec un accompagnement médical, avec un médecin et des infirmiers et une sage-femme présente sur le dispositif. On a essayé de réfléchir à une espèce de guichet unique pour lequel on travaille des partenariats forts avec la PHM. On n'est pas conventionné avec eux. des partenariats forts qui sont en train d'être construits avec, j'espère, la clinique Beauregard pour toucher le 13e, parce qu'on est pragmatique. Une personne qui habite du côté des Clos, Frévalon, tu ne vas pas l'envoyer à l'hôpital Nord. Donc tu l'envoies dans ton hôpital de proximité. L'hôpital de proximité, c'est l'Aveyron. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un hôpital militaire. Mais surtout, la clinique privée Beauregard, qui est en capacité, justement pour le cancer du sein, d'accueillir sans dépassement d'honoraires les personnes concernées. Et ensuite, pour le bas du 14e, parce qu'on est aussi sur ces territoires-là, le Canet, il y a l'hôpital européen avec qui on travaille main dans la main depuis un bon petit moment.
Et j'allais dire, l'espace santé, est-ce que vous travaillez avec lui ou pas ?
On était en réunion hier avec eux, l'espace santé dans le 15e. Il y a une future implantation qui aura lieu probablement dans ce secteur-là. Oui, on travaille main dans la main. Ensuite, toutes les initiatives qui se lancent, pour te dire, l'espace santé, on a été dès le départ sollicité par la PHM et le bataillon des marins-pompiers pour venir en aide justement, pour accentuer la vaccination dans ces territoires. Et on a su travailler pendant cette période en bonne intelligence, et on le refera sans aucun état d'âme et avec plaisir, puisqu'on a vu l'impact direct de ce travail en partenariat. Donc l'espace santé, oui, après, chacun a son domaine. Par exemple, l'espace santé, ils sont plutôt ancrés autour des Égalades, avec une médiatrice qui va travailler le secteur des Égalades. Nous, on est dans tous les territoires. On est dans le 13e, Alix les a cités tout précédemment, et lorsqu'on était dans la Covid, c'était tous les territoires qui étaient impactés. Alors juste pour apporter une petite précision, pourquoi ces territoires ciblés ? Tout simplement parce qu'on est aussi, il ne faut pas oublier, dans le cadre d'une étude, en partenariat avec Santé publique France, en partenariat avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, en partenariat avec le CRCDC, alors je ne connais pas les sigles, mais c'est un centre... Alix ? On colle, excusez-nous, le CRCDC. Mais voilà, c'était ceux qui étaient en charge d'organiser le dépistage du cancer organisé. Et donc, toutes ces personnes, et l'ARS, toutes ces personnes, pour évaluer l'impact d'une action comme la nôtre sur un territoire donné, on est obligé d'évaluer aussi les autres territoires qui ne sont pas couverts par notre action. Donc voilà l'intérêt, en fait, d'évaluer cette action, de modéliser cette action. Et si effectivement cette action porte ses fruits, ben, il y aura probablement une généralisation vers d'autres acteurs associatifs qui sont ancrés dans leur territoire à l'échelle du territoire national. Donc c'est une action pilote qui est très très observée. On a mené des enquêtes avant de commencer cette action. On a touché plus de 1300 personnes en porte-à-porte pour pouvoir entendre quels sont leurs ressentis en matière de santé. Et là, on est sur toute autre chose. Donc j'espère qu'elle portera ses fruits et qu'on pourra justement augmenter dans l'intérêt des habitants la couverture du dépistage.
L'heure tourne, l'heure avance, donc peut-être que ce serait bien de voir un peu comment va se dérouler la campagne rose, d'octobre rose, à savoir un peu quelles sont les modalités, les actions à venir, dans quel secteur déjà, et comment l'information en amont sera faite, comment les partenaires peuvent participer à diffuser l'information du lieu où le camion sera stationné pour la campagne, etc., etc.
Oui, alors sur cette campagne, justement, on est en train de finaliser notre planning pour le mois. Sabrina, ici présente, va bientôt du coup publier notre planning, et on le partagera du coup à tous nos partenaires qui pourront par la suite le partager s'ils le souhaitent aussi. Et donc ces actions, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sera dans les différents quartiers du 13e au 16e avec différents partenaires. Donc, par exemple, on a une médiatrice qui va travailler avec plusieurs associations dans le 15e, la CEPAM, avec Rebondir 13, etc. Et donc ça sera des actions principalement de sensibilisation autour de STEM, et donc toujours avec des partenaires. On va aussi travailler avec la mairie du 15-16e, par exemple, pour ces actions. Voilà, et donc le planning sera très prochainement sur tous nos réseaux, en ligne, et partagé à tous nos partenaires.
Si je peux me rajouter quelques dates, en tout cas, concernant le 16e, on a, avec la mairie du 15-16, le 29, il y aura une fête qui clôturera justement ce parcours d'Octobre Rose. Le bus du cœur, puisqu'on y est aussi, on est présent du 18 au 20. Donc nous, en tout cas, on a pour objectif d'amener 40 femmes vers ce bus du cœur. Et concernant Octobre Rose, on a 6 ou 7 dates dans le 15e et dans le 16e arrondissement. Et dans le 13e, 14e, on a à peu près pareil, 6 ou 7 dates. Donc on va être très, très, très sollicité. Alors j'ai pas les dates en tête parce qu'on est en train, encore une fois, d'organiser avec les partenaires. Et on a une réunion cet après-midi dès qu'on finisse cette réunion avec vous. Donc on aura des réunions. En tout cas, le format, ça sera de la convivialité, des discussions avec Octobre Rose, avec mesdames. Mais pas que aussi, il y a ces messieurs qui sont concernés. De discuter autour de l'estime de soi, de la prise en charge. Sur les ateliers que nous allons proposer, il n'y aura pas que de l'information donnée. Il y aura, comme je vous ai dit, de la convivialité, puisqu'il y aura des femmes qui viendront. Alors, mesdames, pardonnez-moi, je ne connais pas les termes manicure ou maquillage ou esthétique. Voilà, un terme générique de l'esthétique qui sera proposé, des ateliers de voilà, vraiment, il faut que ça soit convivial. Je pense qu'il faut aborder la santé de manière conviviale parce que on a trop souvent, malheureusement, abordé la santé avec des pleurs. Je pense que l'aborder de manière conviviale, festive, ça peut être aussi bien et ne pas être dans l'injonction. Donc nous, on n'est pas du tout dans l'injonction. Il n'y a qu'à Faucon, il faut, non. On est là avec les partenaires. Et puis on a...